Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre mission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi 27 août 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi du commentaire. Aujourd'hui, dans l'histoire, l'émission Point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le consulat général de la République d'Indonésie à Kuching a organisé la promotion de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016. Le président Jokowi a dit « effectuer immédiat la réforme agraire ». Le gouvernement indonésien invitera les investisseurs à aider la restauration des tourbiers. Le projet infrastructure et importance pour faire face à la CA 2016 est enfin. Bharata Indonesia exporte les composants de train vers les États-Unis et le Mexique. Voici le journal complet. Le consulat général de la République d'Indonésie à Kuching a organisé la promotion de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016 à Sibu, Sarawak, en Malaisie, lundi le 22 août. Jahar Bahar, du consulat général de l'Indonésie à Kuching, a affirmé que cet événement visait à promouvoir l'exposition du commerce de l'Indonésie 2016 qui se tiendra à Jakarta pour les hommes d'affaires et les investisseurs de Sarawak. Nous avons tenu à Sibu, la troisième plus grande ville à Sarawak après Kuching et Miri. Nous avons rassemblé tous les entrepreneurs de tous les domaines. Nous les avons invités à un dîner et nous donnons l'explication sur l'exposition commerciale, ce qui sera fait là-bas, qui assistera à l'événement et les données de transaction de l'exposition de l'année dernière. Cette année, Jahar a ciblé d'envoyer plus de 50 entrepreneurs et investisseurs de Sarawak. Après la promotion à Sibu, le consulat général indonésien organisera la même activité à Bintulu, Sarawak, la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous prévoyons également de le faire à Bintulu. Alors, peut-être plus tard, en faisant cela, nous prenons l'initiative de venir aux hommes d'affaires tout au long de Sarawak. Espérons qu'avec la diffusion de l'information, beaucoup d'hommes d'affaires viendront à l'exposition. L'exposition commerciale indonésienne 2016 est la plus grande exposition commerciale indonésie soutenue par le gouvernement et le secteur privé. L'événement aura lieu du 12 au 16 octobre à Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Le problème de l'inégalité de la propriété foncière et l'accès à la terre pour les agriculteurs au village sont devenus les questions à résoudre. Le président Jokowi Dodo a ordonné le cabinet de travail de surmonter ensemble la pauvreté au village. Parce que, selon les dernières données de l'Agence centrale de statistiques, BPS, la pauvreté rurale nécessite l'attention de toutes les parties. Cela a été dit par le président dans une réunion à huis clos sur la réforme agraire au bureau présidentiel mercredi. Le président a révélé que la plupart des agriculteurs du village étaient des ouvrières agricoles qui ne possèdent pas la terre et les petits agriculteurs qui ne disposent que de moins de 0,3 hectares de terre par personne. Les deux catégories d'agriculteurs sont appelées par le président comme le groupe le plus vulnérable à la hausse des prix des denrées alimentaires. Par conséquent, pour résoudre ce problème, le président Joko Widodo appelle à faire la réforme agraire. Le président a demandé les ministères et les organismes concernés à prendre des mesures accélérant la mise en œuvre de la réforme agraire. En outre, le président a demandé au ministère des Affaires foncières et de l'aménagement spatial, Sofiane Djalil, d'effectuer massivement le programme de certification foncière pour les communautés rurales. Le président cible 5 millions de certificats délivrés par an. Le gouvernement invitera les investisseurs à investir pour soutenir les efforts afin d'aider à la restauration des tourbiers. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'agence de la restauration des tourbières, Nazir Fouad, après une rencontre avec le vice-président Souf Kala à Jakarta mercredi. Il a ajouté que le vice-président assistera à l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de septembre. Selon Nazir, cette occasion sera également utilisée pour mener des entretiens avec des investisseurs liés au programme de restauration des tourbières et pour les inviter à investir. Il a expliqué que la forme d'investissement offerte peut être sous la forme de l'élevage ou des plantations qui peuvent être cultivées dans la tourbe comme l'ananas, le maïs et le sorgho. Il a dit que le gouvernement préparerait également le paquet de politiques liées à la facilité d'obtention d'une licence d'investissement. Selon les calculs, l'estimation du besoin d'investissement pour la gestion des tourbières nécessite de 20 millions de roupies par hectare. Il existe actuellement 6 millions d'hectares de tourbières dégradées. Le gouvernement peut restaurer seulement 1 million d'hectares et il espère que la société et les investisseurs peuvent aider la récupération du reste. Le développement des infrastructures est très important pour la ville de Pekanbaru à faire face à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN, en plus des problèmes de la sécurité. D'autres secteurs qui doivent être encouragés est la qualité des ressources humaines. Cela a été déclaré par le maire de Pekanbaru, Firdaus MT, à Radio République Indonésie à Pekanbaru mercredi. La sécurité de Pekanbaru en tant que destination d'investissement doit être protégée. Le gouvernement de la ville de Pekanbaru construit des infrastructures dans tous les domaines, tels que la route, le pont, l'école, le marché et la santé. Le bureau de la main d'œuvre de la province de Riau ajuste la régulation de la main d'œuvre étrangère en ligne avec l'application de la CEA. Firdaus a également dit qu'il faut avoir une permission écrite du ministre du Travail. Il doit avoir le transfert technologique ou les experts. Pour faire face à la CEA, les travailleurs indonésiens doivent préparer les compétences nécessaires pour concurrencer à l'intérieur et à l'étranger. La grande exposition Trade Expo Indonésia, TEI, qui aura lieu du 12 au 16 octobre 2016, a reçu le plein soutien des différents partis de l'intérieur à l'extérieur du pays. Cela a été dit par le directeur général de l'exportation nationale du ministère du Commerce, Arlinda, mercredi à Jakarta. Le soutien provient de différents ministères et organismes et des associations, entre autres le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Industrie, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, le ministère des coopératives et des PME et le ministère du Tourisme. Le thème de Trade Expo Indonésia cette année est « Indonésie, source des produits naturels et créatifs ». Cette exposition présentera une variété de potentiels créatifs de produits indonésiens qui ont une valeur ajoutée et de haute compétitivité pour rivaliser sur le marché mondial. L'exposition qui aura lieu dans une zone de 50 000 m² sera divisée en 6 zones, à savoir la fabrication de produits, les meubles et décorations de la maison, la nourriture et les boissons, les produits de poisson et les produits agricoles, les industries créatives et de l'investissement. PT Bharata Indonesia Persero a exporté des composants des chemins de fer en deux nations, les États-Unis et le Mexique, mercredi le 24 août 2016. Ces exportations visent à répondre au contrat à long terme entre PT Bharata Indonesia à Gresik, Java East, et Standard Car Tract Company à Illinois, les États-Unis. Le président-directeur de PT Bharata Indonesia, Sil Mikarim, a dit dans une conférence de presse jeudi que les exportations continueront à augmenter, entre autres, par la réhabilitation et l'augmentation de la capacité de la production de l'usine de PT Bharata. Selon lui, il est dans la préparation finale dans le cadre de la réalisation de la planification des investissements qui est nécessitée pour revitaliser l'usine de PT Bharata pour être prête à soutenir les exportations et les programmes du gouvernement tels que les infrastructures de production d'énergie et de la logistique portuaire. Serge Vitor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Attendre la réussite pour l'amitié par le biais des Jeux olympiques ». Hier, à Jakarta, le ministère indonésien de la Jeunesse et des Sports a organisé un défilé pour accueillir les athlètes indonésiens qui ont participé aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. L'activité qui a pris fin d'une rencontre avec le président indonésien Joko Widodo était une expression de joie et de reconnaissance de la nation indonésienne à ceux qui ont réussi à prendre part à l'événement sportif international qui se tient une fois en 4 ans. Le contingent indonésien se composant de 28 athlètes, Tontowi Ahmad et Liliana Nasir ont gagné la médaille d'or en badminton. Pendant ce temps, Eko Yuli Irawan et Sri Wahyu ont gagné respectivement des médailles d'argent en haltérophilie. En plus d'être respectés, les médaillés, en particulier d'or, reçoivent beaucoup de bonus. Qu'est-ce qu'ils reçoivent est quelque chose de naturel, parce que leur réalisation n'est pas quelque chose d'instantané. Ce qui est maintenant acquis par eux a passé un long processus, test mental et physique. Enfin, ils ont réussi à amener les médailles olympiques qui font l'Indonésien fier. La réalisation des médailles des Jeux olympiques brésiliens montre que l'Indonésie est capable de maintenir la capacité et la compétitivité du sport de badminton et l'haltérophilie. Selon le dossier, la première médaille remportée par l'Indonésie était de tir à l'arc, à savoir la médaille d'argent, aux Jeux olympiques de Séoul en 1988. Qu'est-ce qui se passe à la branche de tir à l'arc? Ou la question est quand l'Indonésie sera vainqueur d'autres sports? Certainement, la concurrence entre les pays participants dans le domaine du sport est beaucoup plus serrée d'année en année. Pour les pays développés, le sport ne dépend pas seulement de la responsabilité de l'État concerné, mais aussi sur la dimension plus large. Le sport est devenu une industrie qui implique de nombreuses parties. Ceci est considéré comme l'un des facteurs déterminants de la réussite maximale dans le sport. Pour progresser son monde du sport, l'Indonésie fait face à une situation qui ne peut pas être aussi lisse que les pays développés. En outre, l'Indonésie a beaucoup de devoirs dans d'autres domaines. Il a besoin d'efficience et d'efficacité dans l'utilisation des ressources existantes, afin qu'il doive y avoir des priorités nécessaires. Et d'autres thèmes, pour être le même que l'Australie, qui est inclus dans la liste des 10 médaillés de paix aux Jeux olympiques cette année, est encore relativement loin pour l'Indonésie. D'ailleurs, quelque chose à garder à l'esprit de tous les pays est que ce que le but de convoquer les Jeux olympiques ou quel type de jeu et de compétition sportive dans l'ordre du jour. La réponse est dans le symbole olympique. Cinq anneaux entrelacés symbolisent les cinq continents, alors que cinq couleurs représentent les éléments de la couleur existante sur le drapeau de chaque pays. Cela signifie que tout est pour l'amitié, la convivialité et la solidarité. Citant le credo olympique est pas de gagner ou de perdre, mais de participer et de concourir ainsi. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire La Voix de l'Indonésie, de l'édition de 25 août. Nous allons commencer le 21 août 1945. Le Viet Minh prend le pouvoir au Vietnam. Les bombardements atomiques sur Nagasaki et Hiroshima poussent le Japon à la capitulation. L'empereur vietnamien Bao Dai, qui perd alors sa protection japonaise, est affaibli. Le 25 août 1945, le Viet Minh renverse l'Empire vietnamien et proclame un gouvernement révolutionnaire. Bao Dai doit abdiquer. Le gouvernement dirigé par Ho Chi Minh offre à l'ancien empereur un poste de conseiller suprême. À l'arrivée des Français, Bao Dai est caché par le Viet Minh. Chers auditeurs, on change le 25 août 1941, forces alliées occupées l'Iran. Le 25 août 1941, dans la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées ont occupé l'Iran. Cette année, la pénétration rapide des soldats nazis vers la soviétique provoque une grande inquiétude de la part des alliés, qui comprend les États-Unis, la France et l'Angleterre. Parce que quand les nazis envahirent la soviétique et les intérêts occidentaux au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient sont en danger, et la chance d'une victoire allemande sera encore plus grande. Par conséquent, les Alliés ont décidé d'envoyer des armes et des frais aux Soviétiques par l'Iran. Le matin du 25 août 1941, l'Iran a été attaqué par terre, mer et air par l'armée soviétique et le Royaume-Uni. Régime pro-allemand, le Shahreza Khan, qui a régné à l'époque, ne pouvait pas faire une résistance importante, de sorte que 20 jours plus tard, Téhéran a été envahi par les Britanniques et Soviétiques. Sur la base de l'accord de Londres et Moscou, Shahreza Khan a été chassé du pouvoir et exilé à l'étranger. Le Shahreza Khan a ensuite été nommé comme son successeur. On termine le 25 août 2003, télescope spatial Spitzer. Le plus grand télescope spatial infrarouge est mis en orbite par la NASA et est nommé Spitzer et un hommage à l'astrophysicien américain. Ses capacités à détecter des corps très éloignés grâce à leur rayonnement infrarouge sont exceptionnelles. Il était indispensable d'envoyer ce type de technologie dans l'espace car l'atmosphère télescope au sol. Les satellites IRAS et ISO ont été lancés avant lui et ont permis également d'étudier la formation des étoiles. En effet, lorsque ces dernières se forment, elles demeurent dans une sorte de nuage qui les rend invisibles. Elles émettent par contre un rayonnement infrarouge qui peut permettre de détecter leur position. Chers auditeurs, c'était aujourd'hui dans l'histoire ce soir. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN, la présence du Jammu comme patrimoine culturel doit être préservée ». L'observateur culturel M. Arswendo Atmowiloto a déclaré que pour faire face à la concurrence dans la communauté économique de l'ASEAN, les amateurs de la médecine traditionnelle à base de plantes ou le Jammu doivent prendre des mesures rapides pour maintenir le caractère distinctif et l'existence de la médecine à base de plantes comme un patrimoine culturel de l'Indonésie. Dans une conférence de presse dans la communauté de Jammu, Sentra Jammu Indonesia à Jakarta le vendredi 19 août, Arswendo Atmowiloto a affirmé que les efforts pour maintenir la tradition de boissons de Jammu devaient être commencés maintenant, avant d'autres pays revendiquent le droit d'auteur de Jammu. Selon Arswendo, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de patrimoines culturels qui ont été revendiqués par d'autres pays, tels que batik et d'autres patrimoines culturels. L'Indonésie doit apprendre de cette expérience. Sofiane Hidayat, le président et l'initiateur de la fondation de Sentra Jammu Indonesia, a déclaré à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN, Sentra Jammu Indonesia a développé l'existence des herbes en Indonésie à travers de divers domaines, tels que les recherches, la normalisation, le développement et l'utilité directe pour les gens. Sentra Jammu Indonesia, qui a été inauguré le mercredi 10 août 2016, est une forme de la communauté des amateurs des plantes médicinales ou le Jammu et vise à développer le Jammu comme le patrimoine culturel des ancêtres. Selon Sofiane Hidayat, actuellement il y a deux problèmes, tels que l'existence de Jammu qui face aux défis de développement des temps modernes et de faire la socialisation pour que les gens soient impliqués. À cette fin, Sentra Jammu Indonesia va construire le concept Café Jammu. Jalil a déclaré que le concept n'est pas difficile. Si on a seulement une table, on peut ouvrir le café Jammu. Selon Sofiane, maintenant beaucoup de gens qui sont prêts à devenir un pionnier pour développer le Jammu comme le produit indonésien pour qu'il ne soit pas revendiqué par d'autres pays. Le président de la Fondation de Sentra Jammu Indonesia a également proposé au gouvernement de fixer immédiatement la Journée nationale de Jammu ou bien la Journée de Jammu indonésienne. Selon lui, avec la promulgation de la Journée nationale de Jammu, l'Indonésie peut aussi être fière d'introduire le Jammu au monde et améliorer la dignité de la médecine à base de plantes. Chers amis, c'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le consulat général de la République d'Indonésie à Kuching a organisé la promotion de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016 à Sibu, Sarawak, en Malaisie, lundi le 22 août. Jahar Bahar, du consulat général de l'Indonésie à Kuching, a affirmé que cet événement visait à promouvoir l'exposition de commerce d'Indonésie 2016 qui se tiendra à Jakarta pour les hommes d'affaires et les investisseurs de Sarawak. Nous avons tenu à Sibu, la troisième plus grande ville à Sarawak après Kuching et Miri. Nous avons rassemblé tous les entrepreneurs de tous les domaines. Nous les avons invités à un dîner et nous donnons l'explication sur l'exposition commerciale, ce qui sera fait là-bas, qui assistera à l'événement et les données de transactions de l'exposition de l'année dernière. Cette année, Jahar a ciblé d'envoyer plus de 50 entrepreneurs et investisseurs de Sarawak. Après la promotion à Sibu, le consulat général indonésien organisera la même activité à Bintulu, Sarawak, la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous prévoyons également de le faire à Bintulu. Alors, peut-être plus tard, en faisant cela, nous prenons l'initiative de venir aux hommes d'affaires tout au long de Sarawak. Espérons qu'avec la diffusion de l'information, beaucoup d'hommes d'affaires viendront à l'exposition. L'exposition commerciale indonésienne 2016 est la plus grande exposition commerciale en Indonésie, soutenue par le gouvernement et le secteur privé. L'événement aura lieu du 12 au 16 octobre à Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Le problème de l'inégalité de la propriété foncière et l'accès à la terre pour les agriculteurs au village sont devenus les questions à résoudre. Le président Joko Widodo a ordonné le cabinet de travail de surmonter ensemble la pauvreté au village. Parce que, selon les dernières données de l'Agence centrale de statistiques, BPS, la pauvreté rurale nécessite l'attention de toutes les parties. Cela a été dit par le président dans une réunion à huis clos sur la réforme agraire au bureau présidentiel mercredi. Le président a révélé que la plupart des agriculteurs du village étaient des ouvrières agricoles qui ne possèdent pas la terre et les petits agriculteurs qui ne disposent que de moins de 0,3 hectares de terre par personne. Les deux catégories d'agriculteurs sont appelées par le président comme le groupe le plus vulnérable à la hausse des prix des denrées alimentaires. Par conséquent, pour résoudre ce problème, le président Joko Widodo appelle à faire la réforme agraire. Le président a demandé les ministères et les organismes concernés à prendre des mesures accélérant la mise en œuvre de la réforme agraire. En outre, le président a demandé au ministère des Affaires foncières et de l'Aménagement spatial, Sofiane Djalil, d'effectuer massivement le programme de certification foncière pour les communautés rurales. Le président cible 5 millions de certificats délivrés par an. Le gouvernement invitera les investisseurs à investir pour soutenir les efforts afin d'aider à la restauration des tourbiers. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'Agence de la restauration des tourbières, Nazir Fouad, après une rencontre avec le vice-président Souf Kala à Jakarta mercredi. Il a ajouté que le vice-président assistera à l'Assemblée générale des Nations unies à la fin de septembre. Selon Nazir, cette occasion sera également utilisée pour mener des entretiens avec des investisseurs liés au programme de restauration des tourbières et pour les inviter à investir. Il a expliqué que la forme d'investissement offerte peut être sous la forme de l'élevage ou des plantations qui peuvent être cultivées dans la tourbe comme l'ananas, le maïs et le sorgho. Il a dit que le gouvernement préparerait également le paquet de politiques liées à la facilité d'obtention d'une licence d'investissement. Selon les calculs, l'estimation du besoin d'investissement pour la gestion des tourbières nécessite de 20 millions de rupiah par hectare. Il existe actuellement 6 millions d'hectares de tourbières dégradées. Le gouvernement peut restaurer seulement 1 million d'hectares et il espère que la société et les investisseurs peuvent aider la récupération du reste. Le développement des infrastructures est très important pour la ville de Pekanbaru à faire face à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN, en plus des problèmes de la sécurité. D'autres secteurs qui doivent être encouragés est la qualité des ressources humaines. Cela a été déclaré par le maire de Pekanbaru, Firdaus MT, à Radio République Indonésie à Pekanbaru mercredi. La sécurité de Pekanbaru en tant que destination d'investissement doit être protégée. Le gouvernement de la ville de Pekanbaru construit des infrastructures dans tous les domaines, tels que la route, le pont, l'école, le marché et la santé. Le bureau de la main-d'œuvre de la province de Riau ajuste la régulation de la main-d'œuvre étrangère en ligne avec l'application de la CEA. Firdaus a également dit qu'il faut avoir une permission écrite du ministre du Travail. Il doit avoir le transfert technologique ou les experts. Pour faire face à la CEA, les travailleurs indonésiens doivent préparer les compétences nécessaires pour concurrencer à l'intérieur et à l'étranger. La grande exposition Trade Expo Indonesia, TEI, qui aura lieu du 12 au 16 octobre 2016, a reçu le plein soutien des différents partis de l'intérieur à l'extérieur du pays. Cela a été dit par le directeur général de l'exportation nationale du ministère du Commerce, Arlinda, mercredi à Jakarta. Le soutien provient de différents ministères et organismes et des associations, entre autres le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Industrie, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, le ministère des coopératives et des PME et le ministère du Tourisme. Le thème de Trade Expo Indonesia cette année est « Indonésie, source des produits naturels et créatifs ». Cette exposition présentera une variété de potentiels créatifs de produits indonésiens qui ont une valeur ajoutée et de haute compétitivité pour rivaliser sur le marché mondial. L'exposition, qui aura lieu dans une zone de 50 000 m², sera divisée en 6 zones, à savoir la fabrication de produits, les meubles et décorations de la maison, la nourriture et les boissons, les produits de poisson et les produits agricoles, les industries créatives et de l'investissement. PT Bharata Indonesia Persero a exporté des composants de chemin de fer en donation les États-Unis et le Mexique mercredi le 24 août 2016. Ces exportations visent à répondre au contrat à long terme entre PT Bharata Indonesia à Gresik, Java East et Standard Contract Company à Illinois, les États-Unis. Le président directeur de PT Bharata Indonesia, Sil Mikarim, a dit dans une conférence de presse jeudi que les exportations continueront à augmenter, entre autres, par la réhabilitation et l'augmentation de la capacité de la production de l'usine de PT Bharata. Selon lui, il est dans la préparation finale dans le cadre de la réalisation de la planification des investissements qui est nécessité pour revitaliser l'usine de PT Bharata pour être prête à soutenir les exportations et les programmes du gouvernement tels que les infrastructures de production d'énergie et de la logistique portuaire. Serge Ritor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des nouvelles phrases qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons présenter l'île de Bulat. En tant que capitale de la République d'Indonésie, Jakarta offre beaucoup de choses à ceux qui viennent à cette métropole. Jakarta offre toutes les possibilités pour ceux qui veulent travailler, faire des affaires ou bien des vacances. Si vous voulez passer des vacances, Jakarta a beaucoup de sites touristiques, y compris le tourisme nautique, parce que dans le nord de Jakarta, il y a un groupe de petites îles connues sous le nom des Mille Îles. L'une des belles îles sur les îles de Seribu ou bien Mille Îles est l'île de Bulat. L'île de Bulat possède une grande plage de sable blanc. Vous pouvez accéder à cette île à partir du port de Muara Angke, Jakarta du Nord, en prenant un bateau vers le quai de l'île de Harapan. Et ensuite, il faut continuer le voyage à l'île de Bulat en utilisant un bateau pendant environ 20 minutes. En approchant de l'île, vous passerez la porte d'entrée qui est flanquée de deux murs magnifiques. En arrivant sur ces côtes, vous serez surprise par la beauté naturelle de l'île de Bulat. Les plages ont du sable blanc et fin, l'eau de mer est claire, de sorte que vous pouvez voir la beauté de l'œil nu sous l'eau. Parmi les récifs coralliens sont également encore des étoiles de mer et belles coquilles de mer colorées, et les vagues de cette plage ne sont pas trop élevées. complètement entouré par la rose qui peut briser les vagues. Il est donc tout à fait sûr pour ceux qui veulent nager ici. Après la baignade, vous pourrez bronzer ou bien jouer dans le sable blanc. Vous pouvez regarder le coucher de soleil de la plage sur l'île de Bulat. Il est très beau comme d'autres plages autour des mille îles. Et alors, préparez vos caméras. Il y a beaucoup de sites autour de l'île que vous pouvez capturer à travers des photographies. Conformément à son nom, cette île est ronde et pas trop large. Sa superficie est à seulement 1,28 hectares et située dans le district de l'île Harapan. Cette île est détenue par l'ancien dirigeant du Nouvel Ordre, le président Suharto. Bien que l'île soit une propriété privée, les touristes peuvent se rendre dans cette île, mais il faut demander d'abord la permission. Malheureusement, pour ceux d'entre vous qui veulent passer la nuit, il n'y a pas de logement sur l'île. Mais vous pouvez camper et si vous voulez passer la nuit, il y a aussi déjà des restaurants. Vous ne devez pas la peine d'apporter des aliments. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, la voix d'Anonissi, je suis ravi de vous revoir, toujours avec moi Yubi Soliando dans le programme L'Anonissi en couleur. Dans cet épisode de ce soir, je vais vous présenter une information sur l'Indonésie qui devient l'hôte de Pata Travel Mart 2016. Donc, restez toujours avec nous ici à www.voi.co.id. Ces amis, l'Indonésie est nommée comme l'hôte de l'exposition et le marché de tourisme international de l'Association de voyages de l'Asie Pacifique Pata Mart 2016 qui aura lieu à Indonesian Convention Exhibition à Bumi Serpong Damai à la province de Banten du 7 au 10 septembre cette année. En tant que l'organisateur de Pata Travel Mart, l'Indonésie profitera d'un impact direct dans le domaine de l'économie touristique lorsque les délégations étrangères visitent l'Indonésie. Autant que l'impact indirect comme l'augmentation des valeurs du tourisme indonésien dans le monde. Pour la préparation de Pata Travel Mart 2016, le gouvernement a déjà réservé 11 hôtels ayant 1200 chambres pour les activités étrangères. Le site d'exposition à ICE ou Indonesian Convention Exhibition est accessible en prenant seulement 10 ou 20 minutes de voyage de ces hôtels. Chers auditeurs, Pata Travel Mart 2016 est la plus grande exposition de l'Asie Pacifique dont les participants comptent environ 1000 délégations venues de 60 pays et une centaine de médias locaux et étrangers. Autre par l'exposition en business to business ou B2B, les délégations iront faire le programme Farm Trip où ils vont visiter des endroits touristiques autour de Banten et Jakarta. Puis il y a aussi des séminaires sur les blogueurs de Vias, l'investissement, hôtellerie et d'autres activités en concernant le thème du programme. Pour l'Indonésie, Pata Travel Mart cette année est spécial parce que l'Indonésie devient en l'hôte. Et en plus, l'Indonésie va gagner 4 appréciations Code Award de Pata. Ces 4 appréciations tombent dans cette catégorie. La première, c'est la catégorie de Primary Government Destination ou la première destination gouvernementale pour l'éclipse solaire totale en mars 2016. La deuxième est Heritage and Culture ou le patrimoine culture pour la maison culturelle Osing et l'orchestre de l'arrêt Banyuwangi. La troisième vient de la catégorie de travel journalism ou le journalisme de voyage pour la photo de Handy Larsonneau intitulée Journey of Wonder ou en français le voyage d'émerveillement. La dernière est la catégorie de travel journalism in business industry ou le journalisme de voyage dans l'affaire industrielle pour un article écrit par Vivi Hudoyo. Les amis, Pacific Asia Travel Association ou PATA est une association internationale non lucrative qui s'occupe de voyagerie ou agences de voyage et de tourisme. Chaque septembre, cette association organise un événement du commerce annuel intitulé PATA Travel Mart qui devient l'événement vedette de PATA où l'exposition du commerce de l'Asie-Pacifique a lieu. PATA Travel Mart possède des programmes dynamiques qui fournissent tout ce dont les participants ont besoin autant qu'équiper l'exposition des biens et services par rapport à l'industrie du tourisme et d'agences voyagerie en Asie-Pacifique. PATA Travel Mart réunit centaines de services et clients nationaux sur un toit de marché. Cette année, c'est le tour de l'Indonésie de Devian, l'hôte de la 39e exposition de PATA Travel Mart. Les auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur aujourd'hui, dont le sujet est l'Indonésie Devian, l'hôte de PATA Travel Mart 2016. Nous vous raconterons demain avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voip.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse qui était populaire aux années 80, Endang Estaurina. Voici sa première chanson intitulée « Qu'est-ce que tu cherches ?» Bonne écoute.
Jangan
Chers auditeurs, c'est la chanson d'Endang Estorina intitulée « Qu'est-ce que tu cherches ?» Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook « Voice of Indonesia » ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Comme nous le savons que les relations diplomatiques de l'Indonésie avec un certain nombre de pays dans le monde étaient bonnes parce qu'il y a les intérêts de leurs pays respectifs dans les différents domaines économiques, sociaux, politiques et la sécurité grâce aux liens culturels, comme avec le pays voisin, la Malaisie. Les relations entre l'Indonésie et la Malaisie ne sont pas limitées à des domaines économiques et autres, mais aussi l'art et la culture. Il est visible du goût du peuple de la Malaisie envers les chansons pop indonésiennes. Comme preuve, les cassettes et les disques compacts des chansons pop indonésiennes sont bien vendus au marché de musique de la Malaisie. Quelquefois, les artistes de l'Indonésie détiennent souvent des spectacles en Malaisie, y compris Endang Estorina. Donc, les chansons sont très aimées par le peuple de la Malaisie. Aux années 80 a été la période apogée d'Endang Estorina, non seulement dans le pays, mais aussi en Malaisie, Brunei et Singapour. Bon, Serge Dutor, écoutons maintenant la chanson suivante, Endang Estorina, intitulée « Il pleut à nouveau ». Bonne écoute.
Hujan, hujan telah datang lagi, dingin-dingin menyiksa diri. Batal dan guling sebagai saksi. Sudahlah dingin daku sendiri. Kupanggil kau tak menyang. Akan menjerit tak sanggup lagi. Aku pun menangis lagi. Hujan membuka cerita lama. Thank you.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse, Endang Estaurina. La chanson intitulée « Il pleut à nouveau » raconte la solitude lorsqu'il est seul et quand la pluie vient. La solitude est douloureuse. Endang Estaurina chante cette chanson comme si elle est réellement passée. La chanteuse qui est célèbre grâce aux mains froides du compositeur et du musicien bien connu dans le pays, Rinto Harahap, a été devenue une actrice dans certains feuilletons avant de quitter la scène. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson dans Estaurina intitulée « Entre la haine et de manquer ». Bonne écoute et à bientôt.
Ces amis, c'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie ce soir. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.